Alors nous sommes en présence de Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson, qui sont les co-auteurs d'un livre qui s'appelle « Se souvenir du futur ». Donc bonjour monsieur, on peut peut-être dévoiler la fin. D'ailleurs je vais prendre pour première question la phrase finale du livre et on va commencer là-dessus si vous voulez bien. Donc « Nous ne sommes pas seuls. Depuis l'avenir, nos enfants et descendants nous informent et nous montrent la voie », qui est en soi un véritable koan et qui nécessite une croyance un peu folle.
Moi j'ai écrit ça, ça ressemble à un koan, certes, mais c'est basé aussi sur mon expérience et sur le fait que ce futur, même s'il est potentiel, il existe. Il existe et on peut en recevoir des informations. Ça a été mon cas. Et quand je dis nos enfants et nos descendants sont effectivement dans l'histoire, c'est-à-dire capables de nous envoyer les informations, c'est parce que ça, je l'ai expérimenté. Donc c'est pas non plus juste une belle phrase poétique pour finir un bouquin. C'est-à-dire que ça nous amène aussi à prendre conscience qu'aujourd'hui, si on écoute attentivement, il est possible dès maintenant de se relier à ce futur qui, pour moi, est beaucoup plus optimiste que celui qu'on nous projette toujours dans les médias par rapport à une pseudo-apocalypse ou autre. Je pense que les choses peuvent se résoudre positivement. C'est une note d'espoir, cette conclusion dans le livre, en fait.
Il y a un côté manifeste dans cette phrase aussi, tu vois. C'est façon de dire que ce qui est écrit dans le livre, c'est pas de la pure spéculation. Il y a une base empirique hyper solide, il y a une base théorique hyper solide. Donc c'est des idées qui sont novatrices, qui bousculent, qui sont les idées de Romuald. Mais il y a cette affirmation, effectivement, à la fin, en forme de manifeste, en disant c'est pas écrit au conditionnel, je veux dire, c'est vraiment écrit au présent, pour dire, voilà, on a la possibilité de faire advenir, effectivement, un futur qu'on va appeler un futur souhaitable. On a un ami qui est engagé dans un institut qui s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables. Et effectivement, c'est possible, quoi, collectivement, d'attirer à nous un meilleur futur, avec une notion d'éthique au centre de tout ça, quoi. C'est-à-dire un futur qui soit souhaitable à la fois pour nous en tant qu'individus, mais aussi collectivement, pour l'humanité, et puis plus largement pour la planète, quoi, tout simplement. Ça passe par un travail sur l'intention et tout ce qu'on décrit dans le livre, mais ça consiste surtout aussi à ne pas se focaliser en permanence sur ce qu'il y a de noir, de laid dans le monde, quoi. Donc c'est un travail quand même conscient qui est primordial, quoi.
Alors, ce que vous venez de dire tous les deux, ça implique qu'on a besoin de rêveurs, finalement, pour un futur désirable.
Pas forcément uniquement de rêveurs, dans les deux sens du terme. On a besoin de gens qui soient capables d'exploiter une capacité humaine qu'on a tous, qui est basée sur un processus de mémoire que l'on décrit dans le livre, qui est celui de la rétrocognition. C'est-à-dire d'avoir la possibilité, en fait, par un acte mémoriel, donc de se souvenir, d'où le titre « Se souvenir du futur », de pouvoir se renvoyer de l'information du futur dans son passé. Si les gens collectivement maîtrisent de plus en plus ce que j'appelle moi cette technologie de la conscience, accessible absolument à tout le monde, il n'y a pas de prérequis en fait, eh bien effectivement on peut à ce moment-là agir sur les leviers du réel et changer la donne. Ça me paraît vraiment très important.
C'est intéressant cette notion de rêve parce que moi je me réfère souvent à une phrase des dialogues avec l'ange qui dit « Vous êtes des éveilleurs et pas des rêveurs, c'est pour cela qu'il vous faut rêver ». Donc là c'est une phrase en forme de koan parce qu'il y a une espèce d'énigme. Donc on n'est pas des rêveurs mais on doit rêver parce que la vie en fait c'est comme un rêve. C'est un rêve solide, c'est un rêve collectif et c'est un rêve dans lequel on doit devenir lucide. Et en devenant lucide dans le rêve, on s'extrait du rêve. Et c'est ça qu'on appelle l'éveil. Donc je laisse chacun méditer là-dessus.
On va revenir sur les dialogues avec l'ange un peu plus tard dans l'entretien, mais vous établissez donc dans ce livre des passerelles entre le savoir chamanique, puisque Romuald Le Terrier, vous êtes ethnobotaniste, c'est ça ? Ouais. Vous êtes allé donc en Amazonie et vous faites partie de ces gens comme Yann Kounen, entre autres, qui ont bu la substance qui s'appelle l'ayahuasca et qui donne des visions. Bon, vous allez nous en reparler peut-être après, mais donc vous établissez des passerelles entre ce savoir chamanique et les sciences contemporaines. J'en veux pour exemple Philippe Guillemant, dont vous évoquez quelques thèses dans ce livre, qui lui est physicien. Donc sans pour autant changer de paradigme, comme le fit à une époque dans les années 70 Castaneda, qui lui bascula complètement dans ce monde du chamanisme et de la sorcellerie. C'est-à-dire une autre perception de la réalité qui est moins rationnelle finalement que celle que vous proposez. Alors la question que j'ai à vous poser, c'est la caution de la science est-elle importante à vos yeux ?
La caution de la science, oui, est très importante dans le sens où, moi quand j'ai travaillé avec Ernesto, qui était un chaman métis, Shipibo, dès mes premières expériences chamaniques avec l'ayahuasca, j'ai reçu en fait des informations qui s'exprimaient dans un langage scientifique, un langage de biologiste, de physicien, et très vite, l'esprit de la plante, l'ayahuasca, m'a montré ça, en disant, ça sera ton champ de travail, ça sera pas forcément comme d'autres personnes d'être chaman ou d'être dans le soin, mais vraiment de faire cette passerelle entre quelque part la science chamanique et la science occidentale. Alors moi à l'époque c'était très étrange pour moi, mais en même temps, au fur et à mesure des années, des synchronicités, des rencontres on va dire synchronistiques entre les gens, à rebours du temps maintenant je constate que tout ça avait beaucoup de sens. Et quand j'ai rencontré Philippe Guillemant et ses travaux, ça m'a donné le cadre théorique pour pouvoir penser les enseignements chamaniques de Ernesto, qui lui, déjà à l'époque, parlait de synchronicité, mais pas dans ces termes-là. Il parlait de ce qu'on pourrait traduire en français comme la science des signes. Donc, tout ça a cheminé, et puis tout ça a ensuite débordé aussi sur d'autres champs de recherche, ceux de Carl Gustav Jung, de Wolfgang Pauli. Et puis aujourd'hui, on arrive à avoir une espèce de vision hyper cohérente du phénomène, en fait. Mais ça a passé par ce détour, par les savoirs natifs, en fait. C'était très important.
Ouais. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne recherche pas vraiment la caution de la science, mais disons que, de fait, la science va vers ça. La science redécouvre ses savoirs immémoriaux, chamaniques, dans les spiritualités orientales, etc. On s'aperçoit que ça converge très fort. Depuis déjà la physique quantique, il y a une convergence avec l'hindouisme, etc., le bouddhisme. Donc ce n'est pas des analogies qu'on a besoin de forcer. Elles ont vraiment du sens, elles sont cohérentes en soi. Donc on n'a pas voulu, à tout prix, mettre une caution scientifique. Il s'est avéré que la réflexion de départ de Romuald, elle part justement de ce lien qui est effectif entre ces savoirs chamaniques et puis la physique de la conscience, la physique de l'information, qui est à la pointe de la réflexion scientifique contemporaine.
Alors, on va revenir à la théorie que vous développez dans ce livre, c'est-à-dire la rétrocognition. Vous dites qu'il n'y a pas de destinée foreclose, car notre avenir, ça je vous cite, serait semblable à un chemin bien tracé, mais qui présente un grand nombre de bifurcations possibles à partir du présent. En quelque sorte, rien n'est écrit, c'est ce que vous disiez au début.
Oui, c'est important. D'ailleurs, dans pas mal de traditions spirituelles, il y a le terreau en fait de cette forme de pensée qui, pour moi, est limitante, de se dire tout est prédéterminé. C'est-à-dire que le destin, tout est écrit et donc, quelque part, on ne peut pas changer son destin. Je pense que c'est une erreur. C'est une forme de déterminisme, même spirituel, dans le sens où, quelque part, c'est aliénant de se dire tout est écrit, on ne peut pas changer son destin. Or, ce que nous montre en fait la rétrocausalité, et là, on va tranquillement sur le domaine de la théorie de Philippe. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a cette notion de futur potentiel, mais du coup, notre vie est à imaginer comme effectivement un chemin, comme une piste, comme une ligne de vie, mais avec des embranchements multiples. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va prendre des embranchements par rapport à un autre? C'est justement de reprendre pleine possession de notre libre arbitre. Voilà, notre libre arbitre nous permet effectivement d'activer des commutations de lignes temporelles, et donc si c'est fait en conscience, avec en plus une conscience qui s'étale, qui se distribue dans l'espace-temps et donc à partir du futur, il y a un phénomène de téléguidage. Si vous recevez des informations d'un futur positif, vous savez forcément que vous allez bifurquer vers ce futur positif. Il y a un lien causal. Donc à partir de là, vous allez prendre des embranchements, des commutations de lignes temporelles qui vont vous amener vers le meilleur des futurs possibles, en fait. Un exemple, essayez d'avoir une intention pour un futur assez lointain. Moi, ça a été mon intention de départ. Je disais, moi, je veux être déjà en vie et d'une, et en bonne santé, et en harmonie et heureux dans une trentaine d'années. J'ai reçu des informations, moi, par rapport à ça. Donc quelque part, je dis, quand on reçoit cette boucle d'informations, c'est quand même hyper rassurant. Donc c'est l'intérêt premier, à mon sens, pour moi, de ce travail, c'est de créer une sorte d'assurance-vie, quelque part, pour prendre une métaphore simple, mais c'est comme un GPS de la conscience, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez votre conscience extratemporelle qui est au-dessus de l'espace-temps et qui va vous guider par ces boucles cognitives et vous renvoyer de l'information. Donc c'est un phénomène de guidage, c'est comme si vous étiez dans une voiture et puis dans votre véhicule de vie personnelle comme ça, et puis un GPS vous dit attention, il y a les embouteillages par là, c'est rouge, passez de l'autre côté, là à gauche c'est vert, quoi. Ça se rapproche effectivement des oracles, le I Ching, les tarots, les runes, tout ça ont été basés sur le même processus d'utilisation du hasard, parce que le hasard est quand même le maître mot de notre travail sur la rétrocausalité. C'est très important, ça.
Ouais, on a tendance à opposer la notion de destin et la notion de libre arbitre parce qu'on est habitué à penser de manière binaire. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est la pensée aristotélicienne qui nous a enfermés dans cette logique qui est complètement stérile, en fait, et qui est déjà inopérante dans le domaine de la physique quantique, par exemple. Mais il y a moyen de concilier la notion de destin et la notion de libre arbitre. On peut très bien avoir effectivement une destinée avec des grandes lignes qui sont tracées, surtout si on est dans une perspective, par exemple, de réincarnation, où on considère que la vie, c'est une école, on vient apprendre des choses, et là, peut-être qu'on a des passages obligés, effectivement, des épreuves auxquelles on a choisi de se confronter. C'est ce que disent les médiums, hein. C'est pas une idée qui est de moi. Mais dans ce cadre-là, on garde notre liberté complète d'aller vers ça ou pas, quoi. Et au final, quand on arrive vers la notion d'éveil spirituel, on accepte que finalement on est traversé par une espèce de force de vie, hein, sans parler de Dieu ou quoi que ce soit, on peut considérer ça de manière très laïque, quoi. Et donc l'idée, c'est quand même d'accepter ça, de lâcher prise, de se laisser porter, de se laisser vivre en quelque sorte. Il s'agit juste d'être, hein, c'est ce que nous disent les grands enseignements de la non-dualité. dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme. Donc, à partir de ce moment-là, notre libre arbitre consiste à accepter ça ou pas, quoi. Et on aurait tort de pas l'accepter si c'est notre véritable nature. Donc, la question, c'est ça, c'est quelle est notre véritable nature? Si nous avons une âme ou ce que Jung appelait un soi, eh ben, on doit aller vers ça. On doit aller vers l'intégration de ça. Sinon, on passe à côté de sa vie, en fait.
Ça m'évoque la destinée, par exemple, du Christ, qui est mort à 33 ans crucifié. Est-ce qu'il aurait pu, dans cette perspective, choisir, et d'ailleurs c'est bien montré dans le film de Scorsese, je pense, choisir une autre vie?
Ouais, c'est une question extrêmement compliquée. Je pense que pour lui, la question du libre arbitre ne se posait plus. Il était au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il reconnaissait que de toute façon, il devait exprimer la volonté du Père et qu'il venait là pour racheter nos péchés, etc. Donc sa vie était tracée. Il n'avait pas d'autre choix possible, quoi. Et son libre arbitre, en quelque sorte, consistait à accepter ça.
Alors, moi j'ai relu l'autre jour le livre de Bertrand Meheux sur Jésus thaumaturge, et franchement, on a même le sentiment que Jésus était complètement conscient de sa destinée future, et que quelque part, on était dans l'autoréalisation de quelque chose d'indispensable. Voilà, il n'y avait pas le choix, il fallait que ça se passe comme ça. Donc, c'est assez étonnant, parce que c'est vrai que là, on est sur à la fois quelque chose qui semblait être préétabli, indispensable, et à la fois qui s'organise, à mon sens, sur plusieurs temporalités. À la fois du futur vers le présent. Mais ça sera le sujet peut-être d'une autre conversation, d'un autre débat, mais c'est quand même intéressant de le penser comme ça aussi.
Alors finalement, donc, la rétrocognition, est-ce que c'est pas l'aptitude à faire des rêves prémonitoires, donc à les provoquer, en préparant le terrain de la psyché, grâce à des failles dans le mental ou dans l'espace-temps, hein, puisque vous disiez qu'on est dans une version duelle un peu et rationnelle de la réalité. Or, il s'agit voilà, de faire des césures, des coupures peut-être dans ce mental, par la création donc de synchronicité ou autre.
Ben en fait, oui, on va donner un exemple, c'est beaucoup plus simple pour les auditeurs. En fait, les gens me disent, mais comment on fait pour créer des rêves prémonitoires? Parce que la rétrocognition, c'est ça, en fait, c'est accéder en conscience à générer des informations prémonitoires. Alors, l'autre jour, il y a un monsieur qui a lu Ce souvenir du futur et qui m'envoie un message en me disant, votre truc fonctionne, je viens de l'expérimenter très simplement ce matin. Alors lui, en fait, il avait rêvé la nuit qu'il était avec des graffeurs et des rastas dans un grand hangar. Ils étaient en train de faire des graffes. Ok, ça l'a quand même assez marqué, c'était intense, il dit, j'étais bien présent dans ce rêve. Donc c'est tout, il se lève, il déjeune, et puis il boit son café, tout ça, et puis il zappe à la télévision et il voit une émission sur le peintre Basquiat, où il est justement dans un hangar avec son allure de rasta et d'autres rasta en train, dans les années 80, de faire des tags à la bombe. Donc lui, il est sidéré par ce qu'il voit, il dit, mais c'est mon rêve. Donc il repense à son rêve, et donc là, on a l'exemple de la boucle. En repensant à ce rêve qu'il a fait, en fait, 4 ou 5 heures avant, dans la nuit, il a rétroprojeté l'information qui a construit ce rêve. Donc il suffit juste à un moment de constater dans la réalité les éléments qu'on a vus dans son rêve pour modeler le rêve dans le passé à partir du futur. Donc c'est ce processus après, quand il est fait en conscience, qui permet de se renvoyer des informations très importantes. Il y a eu l'exemple aussi là récemment de gens qui disent avoir gagné le loto parce qu'ils avaient vu les chiffres en rêve. Ah bah, l'exemple, il est simple. Lorsqu'ils constatent à un moment qu'ils ont gagné dans la réalité, ah bah, ils repensent à leur rêve, et en repensant par cet acte mémoriel à leur rêve, ils s'envoient les numéros dans le passé. Et là, je crois que le dernier cas qui est sorti, c'était un rêve qu'il avait fait il y a 10 ans en arrière. Donc il s'est renvoyé l'information 10 ans en arrière.
Et donc après, le travail que vous estimez qu'il est nécessaire de faire, c'est de se remémorer finalement de son rêve pour ensuite...
Mais en fait, gardons l'exemple du loto, mais quand cette personne a constaté qu'il avait gagné, il a eu un fort effet de sidération, une très forte charge émotionnelle. Cette charge émotionnelle liée au souvenir du rêve projette en fait une information en dehors de l'espace-temps qui va modeler le rêve dans le passé, en fait, 10 ans en arrière dans le passé. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait.
Cette notion de faille que vous évoquiez est complètement centrale, quoi, parce qu'effectivement, il s'agit d'insérer comme des coins dans le mental, dans l'ego, pour aller au-delà de ça, pour aller en fait en amont de ça. Ce qui est en amont de ça, c'est notre véritable nature, encore une fois, c'est le soi. Et effectivement, il faut sortir du conditionnement du mental. Donc il s'agit de provoquer pas seulement des rêves prémonitoires, comme le font les aborigènes ou des peuplades en Amazonie, etc., mais aussi dans la réalité consciente, quoi, tout simplement. Hein, donc ça passe pas nécessairement par le rêve. Enfin, on peut interpréter le rêve prémonitoire comme une synchronicité, en fait. C'est une autre grille de lecture, disons.
Oui, parce qu'on parlait de religion il y a quelques secondes, et donc on peut aussi parler de signes, finalement, hein, c'est ça ? La science des signes, bon. On dit souvent, d'ailleurs, qu'on est sur son chemin quand les signes, d'ailleurs, ou les synchronicités abondent, mais encore s'agit-il donc de les percevoir. Don Ernesto, qui était donc le chaman que vous avez rencontré en Amazonie, je le cite, « Il faut retrouver sa part et sensibilité animale pour redevenir spontané et attentif et recevoir des signes ou synchronicités qui sont des réponses de la nature et de l'univers. » Alors, ma question, comment être plus intuitif donc dans notre monde ? C'est-à-dire avoir cette conscience de perception des signes, et une absence de synchronicité indique-t-elle qu'on fasse fausse route ?
Oui, bah ça c'était la pierre angulaire de l'enseignement d'Ernesto. En fait, il expliquait que percevoir les synchronicités, c'est comme un instinct. Il comparait la jungle en fait à ce système de pensée. Il disait, mais en fait, dans la nature, chaque espèce a des réponses directes de l'environnement. C'est-à-dire que lui, c'est ça qu'il appelait les signes et les synchronicités. S'il y a un besoin, il y a une réponse immédiate. Eh bien, nous, on a oublié ça, mais on peut se réapproprier cette capacité humaine d'interroger la nature, d'interroger notre environnement direct, l'environnement familial, sociétal, biologique, écologique, pour justement avoir ces signes. Parce qu'ils existent toujours. Lorsqu'on commence à se mettre en relation avec ça, on les reçoit. Alors, effectivement, oui, ça fonctionne. Beaucoup de gens qui expérimentent se rendent compte que c'est assez facile à produire, parce que dès qu'on se met en reliance, ça fonctionne. Alors, c'est un travail d'intention. Donc, il faut aussi avoir une sorte d'intention flottante. Il ne faut pas être focalisé en se disant « Ok, je veux effectivement avoir une synchronicité et je dois voir ça, il faut absolument que je le vois. » Non, il faut l'oublier en fait. Et bien souvent, c'est quand les gens ont oublié que les synchronicités ont la place, entre guillemets, pour apparaître. Parce que le mental n'est plus focal et là, boum, ça peut se manifester.
Ce dont vous parliez tout à l'heure, monsieur Morisson, lâcher prise et court-circuiter le mental en fait.
Oui, ça repose sur l'idée que c'est de toute façon... C'est comme ça que le monde est, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est ce que Jung a amené, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre le psychique et le physique qui s'exprime par les synchronicités mais pas seulement par elles. Il y a cette interaction constante donc, entre le matériel et le spirituel si on veut, et donc si le monde fonctionne comme ça, eh ben, il suffit de s'y conformer, il suffit de se conformer à cette mécanique en quelque sorte. Donc nous c'est ce qu'on a voulu faire dans le livre, de montrer qu'il y avait un mécanisme, quelque chose qu'on pouvait mettre en œuvre consciemment et sans avoir besoin de faire appel justement au surnaturel finalement, à des entités angélique ou des guides ou ce genre de choses, bien qu'on ne soit pas non plus obligé de l'exclure, hein. C'est une autre façon encore une fois de voir les choses, mais c'est quelque chose qui fonctionne naturellement, c'est ça l'idée, et le fait qu'il y ait des résultats comme ça en atelier ou dans des expérimentations individuelles montre qu'effectivement ça marche. Donc après on peut s'illusionner aussi, et bien sûr on peut voir des signes là où il n'y en a pas, mais il y a quand même l'idée qu'à la base tout est signe. Effectivement dans le chamanisme, la nature nous envoie des signes en permanence, donc oui, il suffit d'y être attentif, quoi, d'y être ouvert, en laissant de côté le raisonnement résonnant, quoi, le mental, l'ego. Donc c'est toute la difficulté en fait, elle est là, elle consiste à faire plutôt un pas en arrière ou un pas de côté, plutôt que de forcer les choses, plutôt que de vouloir à tout prix aller en avant, puisque en partant du principe que c'est de toute façon comme ça que ça fonctionne, et que nous sommes dans ce monde-là, que nous le voulions ou non, quoi.
Intéressant. Alors, par contre, ma prochaine question concerne directement Romuald Le Terrier, puisque c'est vous qui êtes parti là-bas, plusieurs fois peut-être, plusieurs séjours, bon. Et donc, en Amazonie, voilà, il y a deux choses qui m'ont questionné dans le livre, à propos de votre expérience. La première, vous parlez des onduliens. Alors, j'aurais souhaité que vous nous précisiez l'image et la fonction de cette espèce.
Alors, en fait, l'ondulien, c'est une expérience assez extraordinaire parce qu'en fait, au début, je me suis retrouvé en vision dans une sorte de solution aqueuse, comme ça, où je voyais comme une espèce d'algue bleue, comme ça, qui vacillait dans une ondulation, comme ça, de façon très binaire. Et à travers cette vision, s'exprimait, en fait, tout le balancement, en fait, du réel. C'est ce que j'entends par balancement du réel, c'est-à-dire que s'exprimaient tous les couples d'opposés de notre réalité à travers cette ondulation. Et quand, à un moment, j'ai pris conscience de ça, ma conscience est devenue focale dans l'expérience visionnaire, et je me suis mis à faire des zooms, en fait, de ce que j'ai appelé ensuite l'ondulien. Enfin, c'est ce qu'on m'a donné comme information, hein, de ce que c'était. Et en fait, se déployait tout le réel à partir de cette ondulation. C'est-à-dire qu'on partait de niveaux microscopiques, des particules, des cordes, tout ça, pour monter ensuite sur des domaines macroscopiques, pour monter dans l'univers même. Et donc, il y avait une sorte d'articulation du réel à travers cette entité. Et moi, j'ai posé la question à voix haute, je me souviens, pendant la cérémonie, de savoir, mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Et on m'a répondu en esprit, dans ma tête, c'est un ondulien. Et il y avait un jeu de mots, un peu comme dans la langue des oiseaux, c'est-à-dire que ça ondule, mais en même temps, cette ondulation créait du lien. Lien entre toute chose, tout être dans la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette espèce? J'en sais rien. Est-ce que c'est une expression du réel? Est-ce que c'est une expression de la divinité? Est-ce que c'est une expression du tout? Voilà, j'ai pas d'autres informations à donner, mais c'est une expérience très importante et unitaire. Ouais.
Ça m'évoque, encore une fois, Jésus qui disait « Je ne suis pas un homme, mais un ver ». Est-ce qu'il y a peut-être un lien avec ça?
Je suis fasciné parce que je connaissais absolument pas. Donc là, je l'apprends en live. Je trouve d'ailleurs que c'est une belle synchro, parce que je travaille beaucoup actuellement sur la résurrection du Christ dans des travaux annexes, et c'est assez étonnant. Donc, oui, ça peut résonner, bien sûr, évidemment.
Deuxième question, donc, on va parler de Ronin. Alors, Ronin, c'est le dieu créateur du peuple amérindien Shipibo, chez la communauté dans laquelle vous êtes allé, qui s'autogénère, dites-vous, par le biais d'une boucle de rétroaction. Est-ce que vous pouvez à nouveau nous expliciter le concept ?
Oui, ben l'anaconda Ronin, c'est en fait, chez les Shipibo, ils disent il s'est auto-créé. Alors, il s'est auto-créé, moi, je dis, c'est super intéressant, votre truc, mais comment ça se passe? Alors, eux, ils m'ont expliqué avec leur concept mythologique. La meilleure personne qui m'a expliqué ça, c'était Pablo Marengo, un peintre chaman très connu. Je lui dis, mais à propos de l'ayahuasca, le serpent, en fait, Ronin, comment, à un moment, il s'autogénère? Il me dit, mais en fait, c'est simple. Prenons l'image de l'univers. Il me dit, en fait, l'univers, c'est comme un Ouroboros. Donc, lui, il n'avait pas cette notion-là, il connaissait pas. Donc, il m'a dit, c'est un serpent qui se mord la queue. Alors, le début, c'est là ce que vous appelez votre truc, là, le Big Bang. Et puis, ensuite, le serpent se mord la queue à la fin des temps. Boum, il régénère de sa bouche sa queue. C'est comme ça qu'il se génère. En fait, c'est à travers le temps. J'ai compris à ce moment-là que c'était une boucle. Une time loop, c'était vraiment une boucle temporelle. Alors, donner un exemple de ce qu'est une time loop et comment ça permet de faire apparaître des choses à partir de rien. Je prends souvent l'exemple de la machine à voyager dans le temps. C'est-à-dire qu'on va imaginer que vous êtes là, on est dans un jardin, et on entend un bruit derrière les feuillages là-bas, on va voir, il y a une boîte, on la sort, on la met sur la table. C'est une expérience de pensée, bien sûr, hein, ce que je propose là. Vous prenez la boîte, vous l'ouvrez, puis dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une feuille photocopiée où c'est marqué comment construire une machine à voyager dans le temps. Bon, on a du bol, c'est pas très compliqué à la créer, on s'y met tous les trois avec Jocelyn. Et puis, dans une heure, on a créé une machine à voyager dans le temps, ok? Mais la condition sine qua non, marquée en bas de la page, c'est il faut se faire une photocopie des plans et se la remettre derrière le taillis là-bas dans une petite boîte. Donc on le fait bien sûr. Mais alors, ok, mais ces plans de la machine, quand ils apparaissent dans la boucle? Alors vous allez me dire, c'est un paradoxe, c'est pas possible. Bah, rien ne l'interdit d'un point de vue de la physique. Absolument rien. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des plans de machine, de construction d'une machine originale dans le temps qui émergent à partir du néant. Et bah, c'est le même concept pour ce serpent mythique de la mythologie Shipibo en fait.
C'est assez fascinant parce que cette histoire du serpent qui s'autogénère, donc l'Ouroboros, qu'on retrouve dans les mythologies donc amérindiennes, sous d'autres termes évidemment, ça correspond à des modèles de cosmologie aujourd'hui tout à fait récents dans lesquels l'univers en fait recycle sous forme d'informations via des trous noirs et des trous blancs. Donc le trou noir absorbe toute la matière et l'information, et l'information est digérée et rejetée dans l'univers, elle recrée l'univers en permanence sous forme de trous blancs. Donc il y a des modèles aujourd'hui en cosmologie qui montrent la création de l'univers comme s'effectuant de manière perpétuelle à travers ce cycle en fait.